Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Mémoire vive, Georges Bensoussan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah. Et Georges Bensoussan, vous venez aujourd'hui nous parler de la dernière livraison de la revue d'histoire de la Shoah, numéro 192, janvier-juin 2010. C'est donc la revue du Centre de documentation juive contemporaine, revue qui rassemble de nombreuses contributions autour d'un thème, catholiques et protestants français après la Shoah. Alors Georges Bensoussan, pourquoi ce titre d'abord? Pourquoi cette distinction entre catholiques et protestants? Et pourquoi pas, comme titre à ce numéro de la revue, chrétiens français après la Shoah?
Tout à fait. Pourquoi d'abord pas chrétiens français après la Shoah? Parce qu'il aurait fallu inclure les orthodoxes, qui sont certes une minorité en France, et on s'est aperçu qu'on avait bien peu de choses à dire, parce que trop minoritaire. Mais en même temps, donc on devait s'interdire le terme chrétien parce que ça incluait forcément les orthodoxes. Alors pourquoi aussi distinguer catholiques et protestants? Parce que l'attitude a été très différente. Pendant la guerre, avant la guerre, il y a une tradition culturelle protestante, tout le monde le sait, et Cabanel, l'historien du protestantisme, a parlé d'affinité élective entre juifs et protestants, qui fait que, du fait de l'histoire protestante, il y a une propension au sauvetage de la communauté juive, dont on connaît évidemment l'exemple archi rebattu du Chambon-sur-Lignon, mais il y a bien d'autres exemples là-dessus. Donc on doit distinguer les deux hiérarchies et les deux attitudes.
Alors ce vaste dossier, vous l'avez préparé avec Daniel Delmer, et j'imagine qu'un tel dossier est préparé pendant de longs mois, hein, il y a de très nombreuses contributions, mais il résonne cependant avec l'actualité, nous y viendrons sans doute au cours de cette conversation. Donc est-ce qu'il y a de votre part, à l'origine de ce numéro, une volonté affirmer, de comprendre et d'éclairer certains débats contemporains?
Absolument. Il y a une actualité très riche qui passe par les déclarations du Vatican, déclarations du pape Jean-Paul II, la visite à Jérusalem, la première visite même en 1986 du pape à la synagogue de Rome, et bien sûr par la déclaration de repentance de 1997 des évêques de France. Tous ces éléments-là, tous ces événements-là, forcément, réinterrogent les relations entre catholiques, juifs et protestants en France depuis la fin de la guerre.
Alors, vous avez évoqué le nom de Jean-Paul II, nous dirons peut-être un nom de son successeur, hein, parce que l'actualité nous ramène à ce débat. Alors, Georges Bensoussan, vous signez l'éditorial de ce numéro, qui part d'un constat, celui d'une normalisation des relations entre juifs et chrétiens. Je vous cite, j'ouvre les guillemets, « Au début du XXIe siècle, les relations entre Église chrétienne et les juifs sont amicales, malgré quelques faux pas. » Et ce constat, il prend tout son sens, dites-vous, quand on fait ce constat et qu'on regarde cependant un siècle en arrière.
Oui, effectivement, on pourrait penser aujourd'hui que la relation est loin d'être apaisée, qu'il y a encore des frictions, énormément de sujets de discorde, c'est vrai, et puis des problèmes de fond qui sont liés à la perception même de la Shoah, ou même à la perception du judaïsme. Est-ce toujours, dans le fond, une foi considérée en elle-même, ou n'est-ce que la préfiguration de l'ère messianique, ou en tous les cas du christianisme? Bon, toutes ces questions ne sont pas résolues, je pense qu'elles le seront quasiment jamais. Une chose est sûre, c'est que lorsque l'on regarde, ne serait-ce que 60 ans, 70 ans, 80 ans en arrière, quand on voit le combat isolé d'un Jacques Maritain dans l'entre-deux-guerres, par exemple, on constate que le chemin parcouru est considérable. Il s'agit, je crois qu'en pesant nos mots, on peut dire, il s'agit d'une véritable révolution culturelle.
Alors, révolution culturelle, surtout quand on la compare donc à ces premières années du XXe siècle, ce contexte qui naît autour de l'affaire Dreyfus, de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui exacerbe donc les tensions entre les Juifs et les chrétiens, ces tensions qui vont ne pas cesser jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Oui, elle ne cesse pas, même s'il y a, ça on l'a beaucoup oublié, des linéaments de l'amitié judéo-chrétienne de France bien avant l'après-Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30, vous avez un certain nombre de chrétiens, mais vous avez aussi un certain nombre de juifs qui sont prêts à faire un pas l'un vers l'autre. J'ai cité Jacques Maritain tout à l'heure. On peut citer, par exemple, en Belgique, le père Charles, qui a été l'un des grands démonteurs des protocoles des sages de Sion. Il y a tout un travail de rapprochement des deux communautés, en tous les cas des deux fois, qui s'est fait dans l'entre-deux-guerres, mais qui est resté marginal sur le fond. Et a fortiori, avec la montée des tensions dans les années 30, je parle du plan international, la mort brutale de Pie XI, qui a été très ferme sur l'antisémitisme en janvier 1939, et la montée sur le trône pontifical de Pie XII, dont je rappelle quand même que l'un de ses premiers gestes a été d'enterrer l'encyclique préparée par Pie XI, et aussi de réhabiliter l'Action française, qui avait été condamnée en 1926.
Alors, la figure de Pie XII, nous y viendrons au cours de cette conversation. Alors, ce constat général d'une normalisation auquel nous serions parvenus donc en ce début de XXIe siècle, normalisation qui soulève cependant un certain nombre de questions, avec deux grandes questions principales. La première, l'antijudaïsme chrétien a-t-il disparu ?
Je crois que ça fait partie des vœux pieux, la disparition de l'antijudaïsme, parce que la nature même de la relation entre les deux religions est une nature empoisonnée. Dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, le christianisme, et en particulier le catholicisme, se pose comme théologie de substitution au judaïsme. Et de ça, on peut dire que le monde chrétien a beaucoup de mal à se débarrasser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens de bonne volonté qui s'en sont débarrassés, qui ont fait un véritable chemin vers le monde juif, en prenant le monde juif pour ce qu'il est, et non pas pour une étape préalable à l'ère de la reconnaissance de la divinité, de la messianité de Jésus. Il n'empêche que dans le corpus même de la doctrine chrétienne, il y a quelque chose qui bloque en la matière. Mais ce quelque chose qui bloque en matière théologique ne doit pas empêcher de bonnes relations aujourd'hui apaisées entre les communautés. C'est indéniable. Donc, penser qu'on se débarrassera totalement de l'antijudaïsme chrétien, ça relève, je crois, de l'illusion intellectuelle.
On a vu pourtant un glissement du vocabulaire. Alors, on ne va pas aller très loin dans les études théologiques, mais quand les hauts plus hautes autorités de l'Église évoquent les relations entre les mondes juifs et chrétiens, on a vu la substitution d'un vocabulaire toujours dans la métaphore de la filiation, mais on serait passé justement d'une filiation directe entre le monde chrétien issu du monde juif et l'ayant donc dépassé, à un vocabulaire plutôt de la fraternité.
Voilà, c'est ça. C'est en ce sens qu'il y a une évolution tout de même positive. Même si tout n'est pas résolu, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'on ne puisse pas résoudre tous les problèmes et en même temps accepter cette évolution de concert vers des relations apaisées.
Alors Georges Bensoussan, autre grande question, le rapprochement judéo-chrétien auquel nous avons assisté, a-t-il été la conséquence de la Shoah ?
C'est la grande question qui traverse d'ailleurs ce numéro, et je me souviens de ce passage où Daniel Delmer interroge le grand rabbin René Samuel Sirat et lui demande « Aura-t-il fallu finalement, monsieur le grand rabbin, la Shoah pour pousser enfin les chrétiens à reconnaître le judaïsme ?» Et René Samuel Sirat lui fait cette réponse laconique « Je crains bien que oui ». C'est tragique. Daniel Delmer en est d'ailleurs convaincu avec beaucoup d'honnêteté. Je pense qu'il y a eu là un tournant irréversible qui a été une sorte d'électrochoc dans la conscience chrétienne. Et il faut rappeler qu'un homme comme Jules Isaac, qui n'avait aucun intérêt ou peu d'intérêt en tous les cas pour l'histoire juive en tant que tel, en tant que professeur, formateur, agrégé d'histoire, etc.
Le grand historien, le grand auteur
des manuels scolaires, mais aussi des grandes études sur les origines de la guerre de 14. On l'oublie, il a écrit deux grands livres là-dessus. Eh bien, c'est avec la guerre... C'est pendant la guerre qu'il a commencé Jésus-Israël, et c'est après la guerre qu'il a continué ce travail de grand historien que l'on sait. Il a fallu le choc de la guerre dans laquelle il a perdu, il faut le rappeler, son gendre, sa fille et sa femme, puisqu'elles ont été arrêtées, je ne sais plus exactement où, dans l'Allier, pour que l'historien Jules Isaac s'engage sur la voie de cette recherche-là, et c'est à lui que l'on doit aussi ce rapprochement judéo-chrétien.
Alors Georges Bensoussan, on entre avec vous dans ce numéro 192 de la revue d'histoire de la Shoah. D'abord une photo de couverture, on voit une photo en noir et blanc, le cardinal Lustiger à Auschwitz. Et puis une organisation thématique de la revue, après votre éditorial. Donc des thèmes qui s'enchaînent avec de nombreuses contributions à chaque fois. Les églises, les personnages, les mouvements, communautés, organisations, les événements. Et puis un ensemble très riche de documents et de témoignages placés en annexe. Comment avez-vous travaillé justement pour la composition de ce volume ?
Ça a été très difficile. D'abord, il a fallu nous cantonner à la France. Au départ, nous voulions parler des chrétiens d'Europe, des catholiques et protestants d'Europe, et même des chrétiens d'Europe. C'était beaucoup trop vaste, beaucoup trop ambitieux. Nous avons rabattu sur nos prétentions, nous sommes rabattus sur la France, et nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord commencer par parler des grands personnages, un Jules Isaac, un Maritain, Jacques Madol, un Henri-Irénée Maroux s'imposer immédiatement dans l'après-guerre. Et puis, il y avait des moments forts. Et parmi le moment le plus fort, peut-être le moins connu du grand public, c'est Zélisberg. C'est la rencontre de Zélisberg en 1947, mais cette rencontre a lieu en Suisse. Elle a un impact profond sur les relations chrétiens-juifs en France. Donc, on est parti, si vous voulez, de quelques grands thèmes, à savoir les personnages, les moments forts, et on s'est demandé quels étaient également d'autres tournants qui pouvaient axer la revue, qui pouvaient axer le sommaire de la revue. C'est comme ça qu'on a bâti, de façon très pragmatique, très empirique, je dirais, le sommaire de la revue. Et ce que vous l'avez d'ailleurs dit au début, une revue de ce volume-là, dans les 500 pages, ça demande 2 à 3 ans de préparation.
Alors, premier article de fond, celui d'Olivier Rota. Son titre, Dans le clair-obscur de la croix, regard catholique sur la Shoah du milieu des années 40 à nos jours. Et il s'ouvre cet article sur quelques mots de Jacques Maritain. Jacques Maritain qui est une figure qu'on retrouve tout au long de ce numéro de la revue. Ce sont les mots qu'il a prononcés en 1944 sur Radio New York. Il a passé la guerre donc en exil aux États-Unis, et c'est là où il pose, pour essayer de définir les événements que vient de traverser le monde, une métaphore qui va être promise à un immense succès. Georges Bensoussan.
C'est une métaphore qui...
Donc lui, le grand philosophe catholique.
Absolument, c'est une métaphore qui est déjà en germe dans ses écrits des années 30, et qu'on retrouve également dans la théologie de Léon Bloy, Léon Bloy d'avant la Première Guerre mondiale, dont Maritain est un grand lecteur. Et c'est une métaphore qui vise, ou qui va en tous les cas entraîner une sorte de christianisation de la Shoah. Autrement dit, le peuple juif, coupable du déicide, est devenu aujourd'hui le peuple martyr, le peuple crucifié, qui est sur la croix désormais, comme s'il avait été sur la croix aussi pour les péchés commis. Mais il a pris, ce peuple qui était responsable de la mort du Christ, a pris désormais la place du Christ. Il est la figure de la souffrance incarnée.
Et donc, à travers la Shoah, il aurait vécu donc et subi la passion, comme le Christ a subi la
Absolument.
Passion sur
la croix. Absolument. La passion. Et c'est d'autant plus vrai, cette figure de la passion, qu'on va retrouver dans les écrits de Maritain et qu'on va ensuite appeler la christianisation de la Shoah, dont Olivier Rota a bien montré le cheminement jusqu'à nos jours, et c'est d'ailleurs ce qui indispose un certain nombre de juifs dans les relations des chrétiens vis-à-vis de la Shoah, c'est cette christianisation de la Shoah, c'est qu'aujourd'hui, et je pense en particulier à quelque chose, un souvenir personnel, où on m'avait montré dans une paroisse d'Île-de-France, où on m'avait invité du 27 janvier, il y a quelques années, on m'avait montré le voyage d'un groupe catholique à Auschwitz. On m'avait montré tout un groupe de photos, tout un ensemble de photos. Et cet ensemble de photos, à un moment donné, m'a mis un malaise, parce que j'y ai vu tout d'un coup la répétition des étapes du calvaire du Christ. Ici, nous étions à l'entrée du portail d'Auschwitz. Ici, nous sommes acheminés vers la baraque de déshabillage. Ici, nous sommes entrés vers les crématoires. Ici, les chambres à gaz, et ainsi de suite. C'est comme si nous assistions aux 12 passions, aux 12 stations de la passion du Christ. Et quelque chose, effectivement, d'un peu gênant, et on en trouve les linéaments, vous l'avez dit, chez Maritain très tôt.
Alors, c'est pas simplement une image pour les catholiques qui souvent sont animés pour ceux qui s'intéressent donc très tôt à l'expérience du peuple juif. Et ils sont animés des meilleurs sentiments du monde et pour eux, c'est pas simplement faire image. C'est pour eux une vraie révolution théologique.
Tout à fait, c'est une révolution théologique. Il faut la prendre telle quelle. Elle peut effectivement indisposer un grand nombre de juifs, mais je crois que c'est avec cette réalité-là qu'il faut composer aujourd'hui des relations plus apaisées, même si ça peut nous déplaire.
Et alors, on le lit ça dans l'article d'Olivier Rota, cette image donc de la Shoah qui serait la crucifixion du peuple juif, elle va être reprise dans certains milieux juifs même, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un des seuls récits disponibles juste après la guerre, un récit parfaitement éloquent, et avant que se forme un discours autonome et spécifique sur la Shoah.
Oui, c'est un récit, vous avez raison de dire, un récit qui est repris par certains milieux juifs, parce que devant un événement aussi anxiogène, aussi violent, aussi brutal, aussi déstructurant, il faut donner un sens. On est en quête de sens, et ce récit-là offre au moins l'avantage d'offrir une signification à quelque chose qui n'a aucune signification. Parce que quel est le propre de la Shoah? L'une des caractéristiques majeures de la Shoah, c'est d'être un crime gratuit, qui n'a aucun sens sur le fond. Qui n'a aucun sens à partir du moment où on comprend ce qu'est l'idéologie nazie, comment elle fonctionne et comment elle fait du juif l'incarnation du diable sur la terre. À partir de ce moment-là, on comprend que les juifs sont tués parce qu'ils sont nés. C'est même pas parce qu'ils sont nés juifs, simplement parce qu'ils sont nés. Devant un tel vide, devant une telle angoisse, forcément, il s'agit de donner un sens. Alors on va se raccrocher à ce premier récit-là.
Alors, second article, l'article de Patrick Cabanel, « Le protestantisme français face à la Shoah et à l'antisémitisme de 1945 à nos jours ». Il parle là d'une simple constatation. Les protestants représentent 2% de la population française. Ils représentent 10% des justes de France.
Oui, c'est vrai. Cabanel est un observateur scrupuleux du protestantisme français. Il a bien fait le calcul. Et d'ailleurs, il vient de réaliser un très beau livre sur Alice Ferrière, qui est une juste, qui a été la première femme juste de France reconnue par Yad Vashem, mais la deuxième juste de France. Eh bien, Cabanel montre par les fameuses affinités électives dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a toute une tradition qui remonte à la révocation de l'édit de Nantes, donc par l'édit de Fontainebleau en 1685, qui place les protestants français dans une sorte de posture de résistance face au pouvoir établi, donc face à l'ordre oppressif quel qu'il soit, et ce qui fait qu'on retrouve ces protestants de façon surdimensionnée dans le camp Dreyfusard à la fin du XIXe siècle. Il faut rappeler qu'un très grand nombre de Dreyfusards chrétiens, Dreyfusards militants, étaient des protestants, à commencer par le vice-président du Sénat, Scheurer Kestner.
Donc une culture de la minorité, une culture de la répression.
Absolument. De
la résistance à la répression.
Exactement. L'édit de Fontainebleau, 1685, c'est la date clé pour comprendre la conduite protestante en France.
Alors, à partir des années 60, cependant, va se construire autour de ces actes réels et incontestables tout un légendaire. Ça, c'est aussi l'objet de l'article de Patrick Cabanel, qui montre à quel point justement la communauté protestante de France va se saisir de cette histoire, et notamment autour du village de Chambon-sur-Lignon, pour construire un véritable légendaire autour du sauvetage des Juifs de France.
Tout à fait, oui, un légendaire, bon, qui enorgueille la communauté protestante, je dirais que c'est tout à fait légitime, tout à fait de bonne guerre, qui n'est pas exagéré sur le fond, il l'a dit lui-même dans ses chiffres, 2%, 10%, le Chambon-sur-Lignon a protégé les Juifs, mais pas seulement les Juifs, Dieu le fit dans la Drôme a protégé des Juifs, mais pas seulement des Juifs, la tradition de sauvetage, de camouflage, de résistance s'adressait à tous les persécutés, pas uniquement à la minorité juive.
Et donc, il veut bien montrer aussi dans son article que ce légendaire, bien qu'assis sur une histoire incontestable, ne doit pas effacer le fait qu'il existait en France un anti-judaïsme protestant.
Oui, il y avait même eu un pasteur protestant qui était à la tête d'une véritable ligue anti-juive, le pasteur Noël Nougat, qui a d'ailleurs été fusillé à la Libération. C'est très peu connu, mais ça reste quand même marginal.
Alors, Georges Bensoussan, deuxième chapitre de ce numéro de la revue d'histoire de la Shoah intitulé « Catholiques et protestants français après la Shoah », numéro donc 192, janvier-juin 2010. Donc le deuxième chapitre consacré aux personnages, aux grandes figures de cette histoire. On va passer peut-être assez vite. Il y a un article bien intéressant qui est celui de Delphine Dussert consacré à Jean-Paul II, parce qu'on est là donc tout au long du très long pontificat de Jean-Paul II, à une période charnière entre la fin des années 70 et les années 90-2000.
Oui, on s'est posé la question de savoir s'il fallait ou non inclure Jean-Paul II, car il n'entre pas dans le cadre exact de notre intitulé. Et en même temps, on s'est dit on ne peut pas faire l'impasse sur Jean-Paul II, parce qu'il est à l'origine d'un certain nombre d'évolutions. Bon, c'est pour ça qu'on a donné la parole à Delphine Dussert, qui est une jeune docteure en histoire qui a travaillé sur ces sujets. L'évolution de Jean-Paul II, qui est elle-même le résultat de Nostra Aetate et de Vatican II, bien sûr, c'est un élément clé de tout ce qui conditionne ensuite l'évolution de l'Église de France. On ne peut pas oublier que la carrière de Lustiger est en grande partie été faite par Jean-Paul II, et que Lustiger, cardinal de Paris, archevêque de Paris, a énormément fait pour, entre autres, la déclaration de repentance et pour l'évolution de l'Église de France dans cette voie-là.
Alors, ce pontificat de Jean-Paul II, il est marqué dans ses premières années, au milieu des années 80, par un événement qui va être une véritable crise, qui est donc l'affaire qui dépassera très vite, évidemment, les simples questions religieuses, qui est l'affaire du Carmel d'Auschwitz.
Oui, c'est une affaire, je dirais, double. La première, c'est qu'il y a eu un choc de mémoire qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre du côté des Polonais comme du côté des Juifs, où il y a eu une sorte de cécité à l'autre. Les Juifs ont beaucoup de mal à comprendre qu'Auschwitz I, car tout le monde sait qu'il y a trois camps Auschwitz, c'est le lieu du martyr de la nation polonaise. Et c'est indéniable. La plupart des Juifs assassinés à Auschwitz ne sont jamais entrés à Auschwitz-Stammlager, c'est-à-dire le camp souche, le camp de base, le camp 1. Ils sont arrivés directement à Birkenau vers les chambres à gaz, ils n'ont jamais été immatriculés, entre autres. Bon. En revanche, pour les Juifs, Auschwitz II, Birkenau, reste le lieu emblématique de la mémoire. Un choc de mémoire totalement aveugle l'une à l'autre. Et deux, il y a aussi derrière la croix, parce qu'il n'y a pas que les carmélites, il y a également la croix installée devant Birkenau, qui est là une véritable christianisation de la Shoah. Le véritable scandale, il était là. C'est-à-dire cette tendance lourde à occulter l'identité des victimes qui ont été assassinées parce que n'est juive. Et c'est aujourd'hui malheureusement une tendance de fond que l'on retrouve pas seulement dans les milieux chrétiens, mais en règle générale pour tous ceux qui travaillent sur la Shoah, entre autres sur les enseignants, que de gommer l'identité des victimes et de ne parler que des victimes de la répression. Les victimes de la répression, ce n'est pas des hommes aux cheveux bleus, ce n'est pas des martiens, ils ont été tués parce qu'on est juif, donc leur identité juive doit être mise au premier plan du récit que l'on fait de leur souffrance.
Alors Georges Bensoussan, toujours au long de ce pontificat de Jean-Paul II, vous le rappeliez, donc en 1986, la visite du pape à la synagogue de Rome, c'était une grande première, et puis il y aura le jubilé de l'an 2000, le voyage en Terre Sainte et la visite de Jean-Paul II à Yad Vashem. Pour autant, Il y a donc des grands gestes symboliques qui sont posés par le pape Jean-Paul II. Pour autant, il n'y a pas de reconnaissance explicite du poids de l'enseignement du mépris, je mets l'expression entre guillemets, dans la propagation de l'antisémitisme, enseignement du mépris dans lequel l'Église catholique a pesé lourd.
Oui, on constate que sur des points fondamentaux, l'Église catholique n'a pas reculé d'un pouce. Sur la responsabilité de l'Église dans l'antisémitisme, même si l'antisémitisme est païen sur le fond, même si les nazis se sont voulus, pour la plupart de leurs dirigeants, des païens irrompus avec le christianisme, on ne peut pas perdre de vue que ces païens-là ont été des enfants chrétiens qui ont bu au lait de l'antijudaïsme dans les catéchismes protestants et catholiques. Ils ont été formés par l'Église et par des siècles de culture chrétienne. Bon. Là-dessus, l'Église a beaucoup de mal à faire son aggiornamento, comme elle a du mal à reconnaître que le judaïsme, sur le fond, n'est pas une foi caduque, mais qui est une foi en elle-même, mais pas la préfiguration d'un temps messianique ou du temps de Jésus. Comme elle a du mal également, dans d'autres domaines, à reconnaître sur ce qu'on a dit à propos d'Auschwitz tout à l'heure, à savoir la centralité même de ce lieu-là, en tous les cas Auschwitz II, pour le peuple juif.
Alors Georges Bensoussan, dans ces grands personnages, certains font l'objet d'articles spécifiques, certaines figures courent tout au long de ce numéro de la revue. Alors c'est le cas de Julie Zach, on a commencé à en parler, et c'est le cas également de Jacques Maritain, nous avons également commencé à en parler. Ces deux grandes figures, ils ont œuvré l'un et l'autre pour le rapprochement entre juifs et chrétiens en France. Ils ont eu beaucoup de mal, autant le dire, hein. C'était souvent un chemin difficile à emprunter. Et pour autant, quand on relit, grâce à ce numéro de la revue, leur texte aujourd'hui, on est frappé par leur hauteur de vue à tous les deux.
Oui, hauteur de vue de grands intellectuels, d'abord tous les deux, l'un et l'autre, et hauteur de vue aussi de deux personnalités d'exception sur le plan humain, tout simplement, pas seulement sur le plan intellectuel, sur le plan de la force de caractère, de la force de vue, de la hauteur d'esprit. Et vous l'avez dit à juste titre, en 46-47 et après Zélisberg, quand Julie Zach se prépare à publier Jésus-Israël et que se mettent en place ce qui va devenir l'amitié judéo-chrétienne de France, ils ont beaucoup de mal parce que le fait même que Isaac publie Jésus-Israël va heurter beaucoup de consciences chrétiennes, dont l'un des promoteurs de l'amitié judéo-chrétienne de France, Henri-René Maroux, d'où une dispute avant même que l'organisation voit le jour entre Maroux d'un côté, Isaac de l'autre, et le déchirement d'un certain nombre de chrétiens entre l'un et entre l'autre auxquels ils veulent garder leur amitié.
Alors cette publication de ce livre de Julie Zach, Jésus et Israël, en 1948, donc fera beaucoup de bruit. Du coup, une émission de radio de l'époque, La Tribune de Paris, émission célèbre, va consacrer un débat à la publication de cet ouvrage. Et vous reproduisez dans la revue un certain nombre d'échanges tirés donc de cette émission, La Tribune de Paris. Et voilà ce que déclare donc Julie Zach à cette occasion. Ayant lu et relu les évangiles dans ces années 1943-1944, qui ont été les plus dures de ma vie, je suis arrivé à cette conviction que la tradition reçue, en ce qui concerne la position de Jésus par rapport à Israël et d'Israël par rapport à Jésus, que cette tradition, qui d'ailleurs ne touche pas au dogme et à la foi chrétienne, débordait de toutes parts le texte évangélique, et que cette tradition reçue, enseignée depuis des centaines et des centaines d'années par des milliers et des milliers de voix, était, dans le monde chrétien, comme la source première et permanente de l'antisémitisme, comme la souche puissante, séculaire, sur laquelle toutes les autres variétés d'antisémitisme étaient venues, en quelque sorte, se greffer. D'où cette conclusion pratique que seul l'enseignement chrétien peut essayer de défaire ce que l'enseignement chrétien a fait, et il me semble que, s'il le peut, il le doit.
Oui, je crois que là, en quelques lignes, Isaac a pointé du doigt l'essentiel. Nous, ces lignes aujourd'hui que vous venez de lire, elles nous paraissent révolutionnaires. On peut imaginer le choc qu'elles ont pu représenter il y a 60 ans pour un Maroux.
Exactement,
4 ans après la Shoah. Pour un Maroux qui est un homme bien disposé, ce qu'on appelle vraiment un homme de bonne volonté. Et je le dis de façon très sérieuse, a fortiori pour des consciences chrétiennes pas prêtes du tout à s'engager sur cette voie-là, comme Daniel Rops. D'où la levée de bouclier contre Julie Zach, la violence qui a accueilli la publication de son livre, alors qu'Isaac pointait quelque chose qu'aujourd'hui les historiens savent parfaitement, le poids des catéchismes, je dis bien non pas des pères de l'Église, mais des catéchismes au quotidien, dans l'enseignement du mépris et de la haine et de la violence a été prégnant. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années sur les catéchismes en usage dans les années 30 un peu partout en Europe, c'est sidérant de violence. Et puis deuxième exemple, les passions, dont on a oublié le rôle qu'elles ont joué dans l'éducation des chrétiens dans des sociétés analphabètes. Les passions qui étaient jouées dans la semaine de Pâques ont joué un rôle clé dans l'enseignement de la haine. D'ailleurs, ça n'est pas par hasard que tout le monde sait que les grandes périodes pogromistes en Europe de l'Est étaient la période de Pâques.
Alors Georges Bensoussan, je le disais, ce numéro de la revue d'histoire de la Shoah, publié ces dernières semaines, tombe à pic pour éclairer un certain nombre de grands débats contemporains. On a juste le temps d'en aborder un ensemble, celui du processus de béatification de Pie XII, relancé donc par le pape Benoît XVI au mois de décembre dernier. Donc Pie XII, hein, Eugenio Pacelli, pontificat de 1939 à 1958, le pape dont on le dit, dont on écrit qu'il s'est tu face à la Shoah.
C'est une question très difficile, mais en même temps, ce n'est pas une question intouchable, ce n'est pas une question taboue, c'est une question complexe, mais ce n'est pas parce que c'est une question complexe qu'on ne peut pas la traiter et qu'on ne peut pas même en résoudre une bonne partie. C'est vrai qu'une partie des archives du Vatican sont encore fermées, mais on en sait déjà beaucoup et un grand nombre de travaux d'historiens sérieux depuis Friedlander, il y a plus de 40 ans, jusqu'aux
Son
études
ouvrage
actuelles.
Est republié ces dernières semaines.
Exactement. Oui, jusqu'aux études actuelles d'historiens comme Giovanni Michelli et d'autres, aussi bien d'historiens allemands, anglais qu'italiens, oui, font le point aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Une chose apparaît sûre, et je peux le dire d'autant plus que, ayant coordonné avec d'autres le dictionnaire de la Shoah l'année dernière, le seul point d'achoppement entre nous, les quatre directeurs d'ouvrage, a été Pie XII. C'est le point qui nous a fait perdre un mois de retard dans la publication, tellement nous étions en désaccord. Une chose est sûre, à la suite de nos discussions, c'est ceci. On peut comprendre le silence de Pie XII pour des raisons de tactique, à savoir ne pas mettre en danger davantage les communautés chrétiennes, etc. Mais il y a une chose qui est troublante et à laquelle aucun défenseur de Pie XII n'a jamais pu nous répondre. C'est que, alors que Pie XII garde le silence en public, et y compris dans sa correspondance officielle, ce qu'on peut comprendre, il garde aussi le silence dans sa correspondance privée sur les violences commises contre les Juifs. Or, dans sa correspondance privée, il est totalement disert et bavard sur les violences commises contre les malades mentaux, contre les catholiques polonais. Plus grave, après la guerre,
oui,
il
son
garde
silence,
encore.
Son silence continue.
Continue après la guerre.
Jusqu'en 1958.
Jusqu'à la fin. Son silence continue après la guerre, alors que un grand nombre de chrétiens, dont François Mauriac, dont Jacques Maritain, le pressent de prendre la parole, il garde le silence jusqu'au bout. Là, ça pose réellement problème, et tous les arguments qu'on a pu nous opposer ne sont pas recevables, quand par exemple, on sait qu'en 1955, le gouvernement d'Israël avait félicité le pape pour je ne sais plus quelle action. On ne doit pas oublier ceci, que nous sommes dans la réelle politique et que le gouvernement israélien de Jérusalem a besoin d'une reconnaissance par le Vatican. Tout simplement.
Alors Georges Bensoussan, je vous remercie et je renvoie tous les auditeurs pour éclairer ces vastes questions. Donc au numéro 192 de la revue d'histoire de la Shoah intitulé « Catholiques et protestants français après la Shoah ». C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, et enfin avec toutes nos émissions en archive sur le site Mémoire vive au pluriel.net.